La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Salut, nous voici les amis à un tout petit peu plus de 4 mois des élections au Québec avec un nouveau chef au Parti libéral, M. Milliard, une nouvelle chef à la CAQ et de ce fait, nouvelle première ministre Mme Fréchette. Ces éléments étaient sur le point de se concrétiser quand j'ai reçu le même trio d'invités que ce midi avec moi en janvier. Je discute politique québécoise ce midi avec Denis Marion, Annie Bourque et Nathalie Rochefort. Bougez pas, on revient.
Hey, on devrait changer pour Bell, nous autres aussi.
Bell, oublie ça, il est bien correct, notre Internet.
Ben, c'est toi qui chiales tout le temps après.
Mais là, c'est pas parce que les voisins ont changé qu'il faut changer nous autres aussi. Il est correct, notre Internet.
C'est pas ça que tu me disais hier. Et je cite, espèce d'Internet de de Regine, molle par la fenêtre.
Ben là...
Ouais, c'est ça.
T'as bien raison, on passe à Bell.
Bon.
Passez à Bell Internet Fibre 500, offert avec la télé et la téléphonie pour 89 $ par mois avec un crédit pour autopaiement. Visitez bell.ca pour les détails et pour vérifier la disponibilité. Bell, tout part d'une connexion.
Le 1er juillet approche et vous n'avez toujours pas trouvé de logement. Vous avez cherché partout et vous ne savez plus quoi faire. Vous pouvez compter sur les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation. Ils sont là pour vous accompagner dans vos recherches. Contactez-les sans tarder. Ce service est gratuit. Pour en savoir plus, visitez québec.ca/recherche-logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Quand je les ai reçus en janvier, François Legault venait d'annoncer sa démission. Il a aujourd'hui sa successeur. J'ai vérifié successeur ou successeuse, mais successeuse, je vois, ça sonne mal. Christine Fréchette. Et Pablo Rodriguez venait de démissionner. Il a aujourd'hui un successeur, Charles Milliard. Avec moi pour cette dernière édition régulière de La Tribune, avant que l'émission n'entreprenne sa tournée estivale des municipalités, Denis Marion, observateur politique aguerri, qui fut chef de cabinet à Québec. Bonjour, Denis Marion.
Allô, Sylvain.
T'as vu, j'ai pas dit politologue.
Non, je suis très content.
Non. Sauf que là, je viens de dire que je l'avais pas dit. Ça vient de s'annuler. Il y a aussi avec nous Annie Bourque, journaliste. On peut notamment la lire dans le Sorel Tracy magazine. Bonjour, Annie.
Bonjour.
Et Nathalie Rochefort, qui a été députée libérale de Mercier de 2001 à 2003.
Bonjour.
Salut. Bonjour, madame.
Un quart de siècle.
Ben, ça fait un petit bout, là. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais... Puis il y en a un qui le réalise parce qu'il l'a dit pendant la pause, mais dans ce club de La Tribune, vous vous êtes taillé la place pour vos jeux individuels et d'équipe de premier trio! Êtes-vous content?
Merci, ben, coach.
Content et content.
Un bel honneur.
Coach Rochon.
Ça fait plaisir. Et ce n'était pas une analogie sportive innocente, mon affaire. Je veux vous entendre un instant sur l'autre sport préféré des Québécois, le hockey. Est-ce que vous avez suivi le Canadien? Annie, je sais que toi, oui, tu l'as suivi,
ben
t'es même
oui.
Allé l'encourager. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de nos glorieux? Est-ce qu'ils le sont tout autant après la défaite? Glorieux, qu'est-ce que t'en penses?
Mais moi, ce que je raconte souvent, c'est que c'est dans la tête. J'ai regardé les Boys, j'étais très content. Puis c'était
la série de films.
Oui, et c'est inespéré que nos Canadiens se soient rendus jusqu'à cette étape-là. Mais à la fin, j'ai décroché quand je regardais la figure de Martin Saint-Louis, le coach, puis on voyait son pessimisme. On voyait quand les Hurricanes ont commencé à prendre le dessus. Moi, je me suis dit, j'ai dit à mes enfants, regardez là, Il manque de combativité. Puis comme coach, il faut montrer l'exemple à ses joueurs. Si tu abandonnes, si tu dis les autres sont meilleurs puis toi, t'es pas bon, c'est comme ça que ça... C'est juste ça. Moi, ça m'a déçu. Puis là, quand l'avant-dernier match, ils ont encore recommencé à compter durant deux ou trois buts, là, je suis allée me coucher.
T'en pouvais plus. Puis t'en pouvais plus de voir la physionomie de Saint-Louis. Toi, tu trouves que la défaite était inscrite dans sa face.
Oui, exactement. Oui. Ah, ça. Oui. Puis c'est ça que dans les boys, on apprend, c'est le mental.
Oui, la force du mental.
Oui, puis c'est comme ça en politique. Vous le savez, vous en avez fait vous-même.
Dans la vie, dès qu'on se met sur un projet, c'est le mental d'abord.
Bien, justement. Alors, Nathalie, je poursuis avec toi, Nathalie Rochefort. Toi, est-ce que tu as suivi ça, les Canadiens?
Absolument pas.
T'as eu ça, là, OK? T'aimes pas ça?
Ça m'intéresse pas.
Est-ce que dans ta prime jeunesse, t'as été une orpheline de hockey, papa regardait ça?
Non, même pas. Grand-maman regardait ça, l'écoutait à la radio.
Oui.
C'était à l'époque. Mais c'était les Nordiques.
Ah oui!
Je viens du bas du fleuve, fait que, bof, il n'y a plus de Nordiques, c'est plus intéressant.
Tu t'es mis à te désintéresser du hockey quand les Nordiques étaient terminés. Puis t'as pas switché, excusez-moi le verbe, vers l'avalanche?
Absolument pas.
Parce qu'il y en a qui ont fait ça. Moi, je n'ai besoin de comprendre, mais en tout cas. Toi, Denis Marion, est-ce que tu as suivi le hockey?
Moi, je n'ai pas suivi le hockey. J'ai suivi les gens qui suivaient le hockey.
Ça n'arrêtera jamais d'être un original. Hein?
Non, mais ce que je veux dire, c'est effectivement, là, je ne suis pas très amateur de sport de façon générale, mais je trouvais absolument fascinant un Québec uni d'un bord à l'autre, malgré les gens de Québec. Malgré le passé de Québec, Montréal. Oui, exactement.
Oui, parce que le Canadien, on va exclure Nathalie Rochefort, s'est mis à être adulé dans la capitale. Ailleurs.
Exactement. Aussi. Quand le centre Vidéotron est plein à Québec, il y a un message.
Il y a quelque chose là.
Okay? Ouais. Et moi, je trouvais ça fascinant et j'avoue sincèrement que dans ces périodes où on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de divisions dans nos sociétés, d'avoir les gens se prendre au jeu. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai toujours trouvé ça absolument génial. Quand les Canadiens perdent, ce sont les Canadiens qui perdent. Mais quand ils gagnent, c'est nous autres qui gagnons.
Ouais,
je trouve ça fascinant. On a gagné samedi. Tu sais,
on a gagné, mais les Canadiens ont perdu.
Ouais, okay. Ça, c'est vrai.
Et ça, je trouve ça très intéressant. Bon. Et le fait de voir tous ces... Y compris ici, à Statera, où il y avait des gens qui regardent. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça sympathique. Et en même temps, c'est quand même... Ça pose quelques questions par rapport au fait que c'est du sport professionnel commercial. Il y a cet aspect-là, quelque part, qu'on doit pas négliger.
Mon détour par le hockey, Denis, Nathalie et Annie, n'était pas innocent. Rien n'est innocent dans cette émission. Bon, il y en a peut-être qui trouvent que c'est pas vrai, en tout cas. Laissons les dons parler, ceux-là. La reconnexion des Québécois avec le Canadien, est-ce que ça a fouetté la fierté québécoise ou canadienne? Je veux vous entendre jouer les psychanalystes. Nathalie me regarde avec des grands yeux. Où qui s'en va?
Bonne question.
C'est vraiment une
excellente question.
Oui, tout à fait.
Parce que j'ai rarement entendu autant de souverainistes être fiers d'être Canadien.
D'être Canadien ou de prendre pour le Canadien?
Ben, ils disent « Ah, je suis Canadien ». Ils disent pas « Je prends pour le Canadien ». Ils disent
«
je suis Canadien ».
Moi, j'ai échappé à ça. Moi, je disais pas que
tellement intéressant comme question, Sylvain.
Oui.
Moi, je te dirais que c'était la deuxième période d'un repositionnement. Beaucoup de Québécois sont devenus Canadiens depuis l'arrivée de Mark Carney à la tête du gouvernement fédéral. Et là, on a eu cette année le Canadien où les gens sont très émotifs à entendre le Haut-Canada chanté par la foule.
À Boston, notamment.
Exactement. Alors, puis même il y a eu beaucoup de bruit sur le fait qu'à Buffalo, une partie avec deux équipes américaines, ils ont chanté le Haut-Canada. Je trouve ça assez fascinant de voir cette évolution-là.
Donc, ça a fouetté, tu penses, Denis, la fierté canadienne,
pas la fierté
québécoise.
Je vais te dire, je ne crois pas que ce soit un geste nécessairement conscient.
Non, c'est pas conscient.
Les gens se lèvent pas le matin en se disant, ça y est, je suis
Canadien.
J'ai voulu faire de vous des psychanalystes, parce que justement, c'est l'inconscient auquel je m'intéresse.
Mais je suis convaincu que je suis profondément convaincu que ça rapproche effectivement les Québécois d'un concept Canada, quelque part.
Ah oui. Moi, ça ne m'a pas fait...
Comme tu l'as prouvé à chacune de tes publications.
Ben non, moi, justement, ça ne m'a pas fait plus Canadien. Ça m'a fait plus Québécois.
Oui.
Mais continue.
Parce que j'étais au Centre Bell au mois de mars, dans une partie où encore Cole Caulfield a compté le dernier but. Et à l'hymne national, J'étais en compagnie de gens profondément souverainistes. Et ça les... Il nous a dit... Puis nous, en tout cas, les gens avec qui on j'étais, on chantait « Oh, Canada! »
Non, c'est pas le sens de le faire au complet.
On l'a vraiment chanté avec nos tripes, avec ardeur.
C'est quoi, les indépendantistes ont dit « On vote non, finalement, au prochain référendum? »
Non, mais eux autres, ils nous ont dit « Mais comment ça, vous chantez comme ça? » Eux autres, ben, c'est parce qu'il y avait des Américains juste en arrière de nous. C'était plus ça, l'idée. C'était pour leur dire notre voix, à faire entendre
notre
voix.
En passant, ce fameux « Au Canada », c'était à l'origine un chant nationaliste, pas canadien d'un océan à l'autre, mais bien d'ici.
C'est canadien pour ce que signifiait être canadien à l'époque.
Ça voulait dire être francophone, c'est ouais, ça. Alors, ouais. C'est un chant nationaliste, mais on a oublié ça.
En 1960, était un fier Canadien, il le disait, mais pour lui, ce que ça voulait dire, c'était être quelqu'un qui vivait sur les bords des rives du fleuve.
Exactement. Bon, laissons le hockey pour parler politique sans ce fantaisiste, mais intéressant détour, convenez-en. Les choses ont changé depuis qu'on s'est parlé tous les trois en janvier. Allons-y en suivant la chronologie. Le 13 février, Charles Milliard a été élu seul en lice chef du Parti libéral. Comment l'avez-vous trouvé depuis? Est-ce que vous le gratifiez d'un parcours sans faute ou est-ce qu'il vous a paru parfois, je garde mon analogie, OK, patiner sa bottine? Qu'en pensez-vous? Nathalie, toi, qui est de cette allégeance là, libérale.
Je l'observe. J'observe aussi son équipe. Ce que je trouve intéressant, c'est la qualité des candidats qu'il a réussi à recruter, mais j'attends d'avoir la plateforme surtout, parce que on va avoir notre prochain conseil général bientôt, où on l'a eu, la plateforme va être vraiment la base sur laquelle on va être et qui va définir qui il est, quel sera notre prochain gouvernement
libéral. Mais jusqu'ici, lui-même, là...
Lui, comme individu, je le trouve solide malgré le manque d'expérience. Parce qu'on ne se le cachera pas, là. Contrairement à Christine Fréchette, il n'y a pas d'expérience d'Assemblée nationale, il n'y a pas d'expérience de gouvernance d'un parti politique.
Mais ça peut être un avantage.
Ça peut être un avantage.
Parce que ça fait plus nouveau.
Oui, mais sauf produit nouveau. Sauf qu'en même temps, il marche sur une corde raide.
Oui. Denis Marion?
Bon, d'abord, pour commencer, je trouve que c'est un type sympathique.
Oui, tout
déjà,
à fait.
Déjà, ça commence bien, là, je veux dire, tant qu'à avoir. Oui. Puis d'autant
c'est
plus...
C'est vrai qu'il n'y a pas une face à fesse dedans.
Non, hein? Pas du tout. Non. Puis à la suite de Pablo Rodriguez, qui ressort, cette expérience-là ressort comme étant un échec, bien, c'est sûr qu'il part avec, je dirais, un regard plus positif. Là. C'est-à-dire, les gens ont un regard plus positif.
Il y a un capital sympathie.
Oui, c'est ça. Merci, Nathalie, c'est exactement ça. Il y a un capital sympathie plus grand. Cependant, je dirais que l'enjeu Charles Milliard et l'enjeu Parti libéral du Québec se touchent dans le sens où ça m'apparaît assez clair que le Parti libéral a un enjeu de positionnement politique actuellement. Et on l'a vu lorsqu'il a essayé de naviguer en deux positions sur la question du français, où c'est très difficile. C'est très, très difficile. Qu'est-ce que ça signifie à moyen terme? Est-ce que le Parti libéral sera capable de sortir de Montréal ou de l'Outaouais? Là?
C'est ça le problème de M. Milliard, c'est le vote francophone.
Oui, et l'attrait qu'il peut avoir pour les francophones.
Oui.
Puis, Sylvain, je suis obligé de dire aussi que faut pas oublier qu'on n'a pas deux partis, là. On en a cinq. Et donc, c'est très... Il y a beaucoup d'offres politiques actuellement.
Oui, oui. Alors, il y a un exercice d'équilibrisme, M. Milliard, à réussir pour gagner le vote francophone sans perdre le vote anglophone. Il joue la carte nationaliste.
C'est important. Dans pas ce juste sens-là. Francophone. Parce que les régions, oui, sont toujours francophones, mais il y en a de plus en plus qui viennent d'ailleurs, qui sont partis de Montréal, qui venaient du vote libéral traditionnel et qui sont établis en région.
Je suis content que ce soit toi qui signale ça, Nathalie. Je trouve donc que c'est une question délicate à soulever que nos régions ont beaucoup changé. Ici, Sorel-Tracy a énormément changé. La population est beaucoup moins homogène qu'elle ne l'était.
Elle est moins blanche francophone de souche qu'à toi.
Ça non plus, ça ne peut pas venir de moi, mais ça peut venir de toi.
Mais l'autre...
Oui, exact.
Attends un peu, Annie. Fleuve,
oui, Annie.
Toutes les régions du Québec, je pense à ma ville natale, Grand-Mère, Shawinigan, on se promène, il y a beaucoup plus de diversité, idem ici, dans les écoles de notre région.
L'autre aspect également, c'est que la mobilité est beaucoup plus grande qu'il y a des années, autant chez les populations issues de l'immigration que chez la population traditionnelle, en guillemets, là, du Québec. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui sont beaucoup moins enracinés dans les régions où ils habitent actuellement. Donc, inévitablement, lorsqu'ils votent, ils peuvent voter sur d'autres aspects également que ceux auxquels on peut référer traditionnellement. Oui.
Parce qu'on a peu de temps.
C'est ce qu'on souhaitait depuis les années 90, de voir cette mobilité-là.
Oui, oui. Hein, oui, on disait l'immigration, il faut que ce soit en région.
C'est ça, on souhaite. Entre autres, c'était en vue de favoriser l'intégration, de favoriser l'accueil, etc. Donc,
puis parce que aussi, les entreprises manquent d'employés. Les immigrants ont été jusqu'à maintenant une force incroyable. Là.
Permettez que nous passions à Mme Fréchette, parce que je sens qu'on va manquer de temps. Elle a été élue chef de la CAQ, elle, le 12 avril, avec 57,9% des voix face à Bernard Drainville. Est-ce que vous vous attendiez à un meilleur score de Mme Fréchette, à moins serré, ou est-ce que c'est pas mal l'issue que vous aviez en tête, ça?
Le 60-40 à peu près, là, 57, comment tu dis, 57?
Oui, 57,9% des voix c'est ça, là, pour Christine Fréchette.
On approche de 60-40, là. C'est tout à fait compréhensible. Je pense que c'est surtout
ça passerait la loi sur la clarté, ça. Hein?
Oui.
C'est clair, ça.
C'est plus que 50 plus 1. Oui, oui. Mais ce que j'allais dire, c'est que ça, je pense que ça représente aussi la réalité à l'intérieur de la CAQ. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que c'est, je ne me souviens plus, 15 ou 16 000 personnes qui ont voté. Là. Les chiffres que tu donnes correspondent à un relativement petit nombre de personnes qui sont exprimées. Mm-hmm. Fait que c'est pas surprenant qu'à l'intérieur de ce groupe-là, Drainville puisse représenter des gens. Je pense que parallèlement, on avait des sondages d'opinion sur l'ensemble du Québec où plus on avançait et plus, avec l'hypothèse d'un premier ministre Drainville, la CAQ plongeait. Donc, il y a une différence entre à l'intérieur du parti et dans la population.
Devenant chef de la CAQ, elle est de facto devenue première ministre, la deuxième femme à diriger le Québec après Pauline Marois. Mesdames, est-ce que ça ajoute des points bonis dans les sondages, cette caractéristique-là d'être la deuxième femme à briser le plafond de verre? Qu'en pensez-vous?
Je vais vous sortir la même réponse que quand Kim Campbell est devenue première ministre. C'est pas parce que c'est une femme que je vais voter pour elle. Pour moi, ça n'a aucun impact sur mon vote, mais je sais qu'autour de moi, pour certaines filles, oui, ça a un impact parce qu'ils disent « elle va être plus calme, elle va être plus posée, elle va être plus minutieuse ». Ben, je pense que c'est une possibilité, mais c'est aussi en fonction de sa personnalité qu'elle va avoir ces caractéristiques-là.
Toi, Annie, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que ça ajoute des points bonus à Mme Fréchette dans les sondages, ça, d'être la deuxième femme à devenir première ministre du Québec?
Après ce que Mme j'entends Marois. Dans mes amis femmes, dans nos soupers de famille de mon âge, ils sont étonnés de sa performance médiatique, on peut dire, vraiment, elle a le tour, mais elle occupe beaucoup l'espace médiatique.
Oui.
Mais depuis la semaine dernière, quand elle a fait sa sortie à l'épicerie, là, je pense que les gens sont pas dupes, là, d'aller prendre des noix, je pense, des fruits coupés.
Tu veux dire que là, elle a manqué son coup, là?
Oui, moi, je pense qu'elle a manqué
c'était
son coup.
C'était la première coche mal taillée.
Oui, puis la lune de miel, même, il y a des chroniqueurs du Journal de Montréal qui ont dit la lune de miel est terminée avec Christine Fréchette. Moi, je suis un peu... Je suis une femme, je suis fière qu'on a une première ministre au Québec comme Pauline Marois. On a rencontré souvent Pauline Marois, j'adore cette femme. Puis j'aime beaucoup qu'on ait une femme première ministre. Mais maintenant, prouve-moi. Mais moi, j'ai toujours en tête comme électeur, prouve-moi, est-ce que ça va changer? Puis tu sais, l'annonce du sandwich, je ne sais pas si tu l'avais dans tes sujets.
Non.
Vous avez regardé
la publicité négative du Parti québécois.
Du Parti québécois avec le sandwich. Mmh. Écoute, ça m'a profondément touchée. Je veux dire, comme, je trouve en tout cas ça, on en reviendra si on en parle, mais prouve-moi, Christine, prouve-moi que tu vas faire autre chose. Que tu feras pas
écoutons un homme là-dessus, là, le bonus. Ouais, là.
D'abord, pour commencer, je, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je suis préoccupé par la présence des femmes et la présence de la diversité de façon générale dans l'univers politique, là, dans l'univers public. Donc, j'ai le fait
de voir... L'université de diplôme aussi. Rappelle-toi, dans notre époque, il y avait beaucoup plus d'avocats qu'autre chose.
Oui,
l'Assemblée nationale.
Tout à fait, effectivement, de parcours.
Exact.
De diversité de parcours, je suis d'accord. Je pense que la principale qualité de Christine Fréchette, c'est pas simplement d'être une femme, c'est d'être très différente de Legault, de François Legault, qui quittait ses fonctions avec peu d'appui dans la société québécoise au moment où il a quitté, au point où il en est venu à la conclusion qu'il ne pouvait pas continuer, là. Et tout en offrant de poursuivre un certain héritage, elle navigue entre « je ne suis pas mon oncle », pour reprendre le truc.
« Je ne suis pas mon oncle François ». »«
Je suis pas mon oncle François
ouais. »,
puis d'offrir une autre, effectivement, mais d'offrir une autre perspective, mais en ne coupant pas complètement les liens avec, évidemment, le gouvernement qui est là depuis 2018.
Ouais. Et ce qui est intéressant dans le parcours de Christine, pour ceux qui s'en souviennent, elle a été une bonne analyste de la politique américaine pendant des années sur plusieurs médias, puis elle a fait beaucoup de conférences et d'écrits sur le sujet. Moi, je pense que dans le contexte actuel, dès qu'on va parler de politique américaine, de négociation, les autres candidats, les autres chefs vont rencontrer quelqu'un qui est solide sur le sujet.
Il y a eu une remontée de la CAQ dans les sondages. Est-ce qu'elle a suffisamment de temps devant elle, Mme Fréchette, pour beaucoup changer l'échiquier politique?
Si tu me donnes 15 secondes, je vais dire ceci. En février, quand on a vu ensemble que M. Legault quittait et qu'il y avait une course et que Christine Fréchette se préparait, semble-t-il, à gagner, OK, parce que ça n'a pas été une surprise, sa victoire, moi, je me suis dit, OK, d'accord, le jeu vient de changer. Je prévoyais une remontée dans les sondages quelque part en avril-mai. Et là, je suis dans les hypothèses, OK? Je le disais tout à l'heure hors d'onde, la politique, c'est ceci de fascinant qu'en 24 heures, tout peut changer. Alors, ce que je dis, ça ne vaut que ce que je dis.
Bon, fais-le ton audacieux, là, je sais que tu vas faire
moi,
ton audacieux.
Je pense qu'il va y avoir des sondages avant la... Si les sondages avant la fête nationale, parce que c'est probablement à peu près le dernier moment où on a des sondages, indique que la remontée se poursuit. Je m'attends qu'au retour, après la fête du travail, dans les premiers sondages, je commence à croire que la CAQ sera en premier des trois partis.
La CAQ actuellement, elle est à 22%. Le PQ est à 30, le PLQ à 28. Mais chez les francophones, par contre, la CAQ est seconde. Là.
Exactement. Puis, il ne faut pas oublier que quand on a cinq partis, là, on pourrait très bien se retrouver avec trois partis autour entre 26 et 28. Là. Fait que, puis la campagne électorale va être extrêmement importante parce que c'est le moment, Sylvain, où les gens vont se raccrocher à ce qui se passe pour vrai parce qu'ils vont devoir aller voter, ils vont vouloir aller voter, puis ils vont vouloir essayer de bien comprendre vers où aller.
On doit s'interrompre pour la publicité. Il n'y aura pas celle du PQ là, avec le sous-marin là, qui change à peu près là, selon que le cuisinier François Legault ou la cuisinière Christine Fréchette. On va au pub et on revient tout de suite après.
La bonne nouvelle économique vous est présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, le magazine Contact Affaires et Olivier Kia Sorel-Tracy.
Tourisme Région Sorel-Tracy profite du lancement de sa saison touristique 2026 pour annoncer le déploiement d'une plateforme numérique qui permettra de découvrir, planifier et réserver ses activités en un seul endroit. Accessible dès maintenant, la plateforme Expérience regroupe une offre variée de forfaits allant du plein air aux attraits culturels et gourmands. Elle propose une façon simple et efficace de planifier ses sorties et de profiter pleinement de ce que la région a à offrir. Réalisée avec le soutien de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, partenaire présentateur de l'initiative, la démarche s'inscrit dans une volonté de rendre l'offre touristique plus accessible et mieux structurée. La plateforme regroupe déjà plusieurs entreprises et événements du territoire.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, le magazine Contact Affaires et Olivier Kia Sorel-Tracy.
Contact Affaires.
Le magazine Contact Affaires est présentement distribué par la poste à toutes les entreprises de la région. À la une, de nouveaux visages à la tête de nos principales organisations. 10 entrevues avec des dirigeants d'organismes et d'entreprises en croissance de la région. Vous pouvez consulter le magazine sur cournoyerpublications.cc. Contact Affaires, des reportages branchés sur notre communauté économique. Édité depuis 27 ans par Cournoyer Publications.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On parle de politique québécoise. Ce midi à La Tribune m'entoure Denis Marion, observateur politique aguerri, qui fut chef de cabinet à Québec. Annie Bourque, journaliste. On peut notamment la lire dans le Sorel-Tracy Magazine. Et Nathalie Rochefort, qui a été députée libérale de Mercier de 2001 à 2003 et qui a aussi été candidate libérale fédérale dans Bécancour-Nicolet-Sorel. La particule Alnobac ne s'était pas encore ajoutée. Et ne craignez pas, nous allons spécifiquement parler de Richelieu pendant cette émission, bien qu'il n'y ait pas encore des tonnes de choses à dire. Le portrait reste imprécis. Alors, poursuivons notre analyse nationale. Saint-Pierre Plamondon a perdu depuis notre dernier tête-à-tête, trio de feu, quelques plumes, bien qu'il reste en avance. Est-ce qu'il doit faire mea culpa, vous pensez, ou est-ce que cette descente est imputable aux remontées libérales et caquistes? Denis?
Lors de notre dernière rencontre, j'avais dit que Paul Saint-Pierre Plamondon avait intérêt à écouter ce que les gens disent. Et on se demande s'il est vraiment allé très loin dans l'équipe, dans l'écoute, pardon, jusqu'ici, parce que je pense que... Et le ton, parce que c'est ce qui se dit le plus, là. Il y a le contenu, il y a ce qu'il dit, puis il y a le ton, la façon dont il l'amène, ses réactions très...
Arrogantes.
Ben oui, je sais pas comment le dire, parce que, en fait, je trouve que ça détonne. Il a un ton qui détonne dans le contexte actuel.
Mais ça pourrait être rafraîchissant, le ton qui détonne.
Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. C'est juste que ça détonne, parce que c'est comme... Oh, on a-tu vraiment envie de vivre... Tu sais, OK, je sais quelque chose, Sylvain... On suit de loin ce qui se passe aux États-Unis. Le ton aux États-Unis nous agace profondément. Là, quand on parle avec les gens autour de nous, là, les gens n'aiment pas ça, ce qui est en train de se passer aux États-Unis actuellement, le ton qui est utilisé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la façon dont, entre autres, Paul Saint-Pierre Plamondon parle et qui se disent « Oh non, c'est pas vrai, on va pas importer ça. Là. On va pas se retrouver avec des commentaires très agressifs, un peu l'histoire du sandwich. » Là, bon, exactement.
Mais tu trouves qu'il a le ton de quel politicien américain, Saint-Pierre?
Non, c'est le fait que l'adversaire politique est identifié comme un ennemi, là, c'est ça aux États-Unis, là, ce vers quoi on va. Tu sais, incapable
de reconnaître les bons côtés.
Exactement, de temps en temps. Tu sais, à un moment donné, tu fais un petit pas de recul en disant oui, regarde, c'est vrai, là, je suis pas d'accord avec cette personne-là, OK, mais on peut reconnaître ça, mais là, c'est comme à chaque fois, c'est noir et blanc.
Mais les gens qui pestent contre la langue de bois, tu ne penses pas qu'ils sont contents là, d'en avoir un qui ne semble pas du tout l'avoir, la langue de bois, qui ne l'a peut-être pas suffisamment? Là,
ben, en fait, je te dirais, Sylvain, moi, je suis d'accord avec ça qu'il ne faut pas avoir la langue de bois. OK? Il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis totalement à l'aise. Il faut dire ce qu'on a à dire, puis il faut penser que la population québécoise est vraiment assez intelligente pour entendre ce qu'on a à dire. Ça, là, c'est un principe de base. Mais être délicat, être attentif, aller sur les idées et non pas sur les personnes, bien présenter ce qu'on veut offrir à la population, pour moi, c'est pas nécessairement un antonyme de ne pas avoir la langue de bois.
Et j'amène autre chose, je regarde Nathalie et Annie. Ils s'obstinent dans la ligne d'un référendum dont les sondages disent que les Québécois ne veulent pas. Est-ce qu'ils s'obstinent là-dedans parce que celle, la ligne de renoncer à ce référendum serait encore plus intenable? Est-ce qu'il pourrait renoncer à ça ou il ne peut pas raisonnablement renoncer à son engagement de tenir un référendum? Ce serait pire encore.
Ben, il s'est fait élire là-dessus comme chef. Donc, avec sa base militante, ça serait invivable. Même si c'est pas logique, statistiquement. T'sais, à un moment donné, il doit avoir des pressions internes. Mais je reviens sur son arrogance. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des bonnes idées dans tous les partis, et on m'a toujours dit, puis ça c'est Louise Arel qui me le rappelait régulièrement, il y a du bon monde, il y a des bonnes idées, et les poignards viennent pas d'en face, ils viennent de dans le dos. Ils t'arrivent dans le dos en politique. Fait que fais attention.
Puis quand on parle d'arrogance, de moi ce que j'entends, puis ce que je vois dans les journaux, il impose beaucoup, un peu à la Trump, ses candidats dans certains comtés. On a vu que les gens se rebellent, puis j'ai vérifié pour le Parti libéral pour savoir qui va être notre prochain candidat, puis il y a des investitures, notamment à Gatineau, notamment le comté Côte-du-Sud, qui est situé dans le coin de Chaudière-Appalaches, à Port-Saint-Joli. Trois candidats qui se sont présentés, et c'est un Laurier Michaud qui a remporté l'investiture, un ancien policier de carrière de Kamouraska.
On va revenir à Richelieu sous cet angle-là de l'investiture, si tu veux, Annie, au dernier segment de notre émission. Dernière chose sur Paul Saint-Pierre-Plamondon. Il y a trois risques, là. Celui qui perd l'élection, celui qui la gagne minoritaire et qui ne puisse pas tenir le référendum, il ne pourra le tenir que s'il forme un gouvernement majoritaire. Et puis, il y a aussi le risque qu'il gagne majoritaire l'élection, qu'il tienne le référendum ou le perde le référendum après. Yeah. Qu'est-ce qui est l'avenue la plus réaliste, vous pensez?
Je pense que j'ai tendance à penser, je ne sais pas ce qu'Annie et Nathalie vous en pensez, mais j'ai tendance à croire que ce sera difficile, compte tenu des cinq partis en lice, d'avoir un gouvernement majoritaire le 5 octobre. Je serais surpris, OK? Encore une fois,
ou avec une majorité claire, à tout le moins.
Oui, c'est ça. Là. Mais j'ai l'impression qu'on risque d'avoir un gouvernement minoritaire. Donc,
il n'y aura pas de référendum, si c'est ça qui arrive.
Exactement.
Moi, je prédis un gouvernement minoritaire, péquiste.
Mais, moi, je ne suis toujours pas fermée à aucun des trois partis principaux, libéral, péquiste et caquiste, parce que j'ai l'impression qu'on va être surpris par le Parti conservateur.
Bon, alors ben allons-y au Parti conservateur, aux autres partis, parce qu'il y a d'autres acteurs et actrices. Il y a M. Duhaime, en effet, M. Duhaime du Parti conservateur, Mme Gazal de Québec solidaire, je dis elle, plutôt que Solzhenitsy, parce que
c'est elle qui est la candidate PM, première ministre.
C'est pour ça que je dis Mme Gazal.
C'est elle qui fera les débats, d'ailleurs.
Comment les voyez-vous tirer leur épingle du jeu en octobre? Est-ce que M. Duhaime va parvenir, enfin, à lui-même se faire élire? Et est-ce que Mme Gazal va sauver des meubles pour son parti?
Le feeling que j'ai, c'est que jusqu'au départ de François Legault, les Québécois, dans les sondages, répondaient en fonction de la présence de François Legault. Okay? Et comme il désertait la CAQ, il fallait qu'il atterrisse quelque part, soit au Parti québécois, au Parti libéral ou au Parti conservateur, parce qu'évidemment, les gens qui ont appuyé la CAQ est moins sensible à aller vers Québec solidaire, là, évidemment. Mais et donc, j'ai l'impression que le rééquilibrage actuel va faire en sorte que les gens voient les choses un petit peu différemment actuellement. Là. Il y a, sur les cinq partis, il y a trois candidats premiers ministres. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bonne récolte pour les autres partis, mais il y a trois candidats premiers ministres. Et le sentiment que j'ai actuellement, c'est que chacun d'eux est en train de conforter sa base. Et donc, là, on verra ce qui reste pour Québec solidaire puis le Parti conservateur, qui va aussi chercher...
Alors, en restera-t-il suffisamment de pourcentage de voix pour que le chef même du Parti conservateur, M. Duhaime, réussisse enfin à faire son entrée à l'Assemblée nationale? Nathalie, Annie, qu'en pensez-vous?
Oui. Dans Bellechasse, ça va être intéressant parce que Bellechasse, c'est un comté d'agriculteurs et c'est là qui est vraiment la base, c'est-à-dire les zones rurales, pas nécessairement les agriculteurs, mais les petits villages. Pour la première fois depuis des années, j'avais vu des pancartes électorales devant des maisons lors de la dernière provinciale. Puis c'était le nom d'Éric Duhaime qui était là. Puis j'avais jamais vu ça, là.
Éric Duhaime fait une très belle campagne. Puis il y avait un politicologue, quand j'étais aux études, qui avait dit « Les gens ont un petit côté favorable à celui, l'outsider. Justement, à l'outsider, à celui qui lutte. » Écoute, je peux pas croire qu'Éric Duhaime, qui est un ami à quelque part aussi, on se connaît depuis des années, il faisait le Québec d'abord en même temps que Mathieu Bock-Côté, on les avait comme analystes, puis dans une autre radio privée.
Tu étais
privée.
Assez cassé à ce moment-là.
Oui, c'est oui. Ça, avec Isabelle Maréchal qui animait, puis Éric, moi, je peux pas dire, écoute, je le vois, là, et j'espère de tout cœur qu'il remporte. Hey, c'est sa troisième. C'est sa troisième. Puis comme chef, il se débrouille bien. J'aime les idées de droite. Puis ici, dans notre comté, les conservateurs aussi, il y a une très forte avance. C'est bleu longtemps, notre comté, là. Il y a un péquiste conservateur, puis après, c'est libéraux.
Ben oui.
C'est sûr, selon 125, c'est ça?
Québec 125.
Mais le Parti conservateur d'Éric Duhaime est quand même en marge. Oui. En marge de l'opinion majoritaire québécoise dans laquelle se retrouvent plus la CAQ, le Parti libéral et le Parti québécois, dans la façon de gouverner, dans la façon de voir le gouvernement, dans la façon de voir les programmes.
Et il occupe peut-être moins seul dans le centre-droit, là. Il y a eu du mouvement là, des formations politiques vers la droite.
Oui,
je ne dis pas qu'ils sont rendus à droite, mais
à
le PQ a quand même, viré. Là.
Quand le chef fait des entrevues à Rebel News, on peut se poser des questions, là, effectivement. Mais ce que j'allais dire, c'est que je souhaite qu'il y ait des députés conservateurs à l'Assemblée nationale pour qu'on les entende.
Exactement.
Pour qu'on les entende, éventuellement pour les disqualifier. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je...
Il n'est pas très sympathique. Il fait un synthème dans mon nom.
Ce que je veux dire, c'est pas des idées que je... Personnellement, ce sont pas des idées auxquelles j'adhère et ce sont pas nécessairement des idées qui, à mon point de vue, sont dans le sens du progrès pour le Québec. Et donc, mais sauf que si on les entend pas, si on n'a pas l'occasion de les voir au quotidien, parce que là, Éric Duhaime a actuellement... Beaujeu, en guillemets, là, il n'y a pas Beaujeu pantoute parce qu'il est à l'extérieur de l'Assemblée nationale, mais ce que je veux dire, il peut choisir les sujets sur lesquels il intervient. Et quand on est à l'Assemblée nationale et qu'on discute d'un projet de loi, les partis doivent se prononcer sur l'ensemble.
Les amis, ça, il va falloir parler de Richelieu, on va le faire après la pause, puis je veux qu'il nous reste du
juste
temps.
Juste une chose, autant Québec solidaire que Parti conservateur ont leur place à l'Assemblée nationale parce qu'ils posent des questions intéressantes en dehors des...
Ben, justement, des Québec solidaire, qu'adviendra-t-il de Québec solidaire à la suite de ces élections?
Si la tendance se maintient, ça s'appelle un effondrement, là?
Oui. Ça regarde plutôt mal.
Non, les jeunes autour de moi sont très... en faveur de Québec solidaire. Puis je pense aussi que la chef actuelle, Mme Gazal, fait un très bon travail dernièrement aussi pour la nouvelle loi pour, comment ça s'appelle, avec les conjoints violents. Là,
les bracelets
anti-rapprochement. Elle a fait un très beau travail. Comme femme, moi, on peut être fière de nos représentantes à l'Assemblée.
En tout cas, tu l'as dit, Annie, tout à l'heure, on manque pas de choix.
On fait une nouvelle pause, Nathalie, Annie et Denis, pour consacrer à Richelieu le dernier segment. J'ai demandé à Jean-Bernard Raymond s'il allait se représenter. Ben, soyez là après la pause, je vais le savoir.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménagers pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez lemeublebeaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Fondation des Amis de la Bonne Entente vous invite à un déjeuner panel sous le thème « Les enjeux humains du sport professionnel » avec François Beauchemin, Anthony Beauvillier et Pierre Mondou. Au-delà des performances de jeu de ces professionnels du hockey d'origine sorelloise, nous allons connaître tout le travail que nécessite cette montée vers la Ligue nationale de hockey. Ce déjeuner panel sera animé par Yannick Lévesque de RDS et aura lieu le dimanche 14 juin à l'Hôtel de la Rive. Vous êtes invité à vous procurer vos billets en nous contactant au 450-808-3534. La Fondation des Amis de la Bonne Entente est un organisme de bienfaisance qui a à cœur de redonner à la société.
Ici Valérie Ferland, pour votre retour à la maison de ce mardi, Sylvain Rochon y sera pour les informations régionales et à 16h35, je discute pour une dernière fois ce printemps avec celui qui nous a accompagnés à travers la saison du Canadien, le journaliste Richard Labbé. Valérie l'après-midi dès 15h30.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Nous sommes à 4 mois des élections québécoises. C'est le sujet qui occupe cette dernière émission de la saison régulière. À compter de la semaine prochaine, on va partir en tournée à travers les municipalités de Pierre-de-Sorel. Je suis entouré pour parler de politique. Danny Bourque, Nathalie Rochefort et Denis Marion. Peu de choses sont claires dans Richelieu à un été du scrutin. Même pas si Jean-Bernard Raymond, le député sortant, va se représenter. Je lui ai posé la question hier. On apprenait que la coalition Avenir Québec avait demandé à ses députés sortants et sortantes de se commettre sur on y va ou on n'y va pas avant la fin du mois de mai. Cette information est-elle exacte? Et avez-vous transmis votre décision au parti?
En toute transparence, c'est pas une information qui s'est rendue jusqu'à moi. Moi, je continue d'avoir la même pensée, les mêmes propos. L'ensemble de mes énergies sont consacrées à la fin de la session parlementaire. On a encore beaucoup de marrons sur le feu, comme on dit. Alors, et puis, dans les semaines qui vont venir ensuite, je ferai part de mes réflexions, qui, pour être honnête, n'est pas encore prise, ma décision. C'est une décision que je vais prendre avec mon équipe, avec ma famille, surtout, puis mes proches collaborateurs. Puis c'est une décision qui est importante parce que ça a des impacts dans toutes les facettes de notre vie. Puis moi, c'est 2 mandats en politique depuis 2012 comme conseiller ou tout début. Fait que c'est tout ça qu'on est en train d'évaluer personnellement.
Quels sont les pour et les contre? Là, visiblement, vous hésitez, vous dites que votre décision n'est pas prise, ça approche drôlement, là, l'échéancier, on est à 4 mois. Qu'est-ce, Qu'est-ce qui vous fait hésiter?
Ben, en fait, c'est pas une hésitation, c'est que je vois pas d'urgence dans la prise de décision. Vous avez raison, c'est dans 4 mois, mais 4 mois, c'est quand même assez long encore en politique. Puis comme je vous dis, je me consacre à travailler sur mes dossiers pour la circonscription de Richelieu, comme je l'ai toujours fait. Puis c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Il reste 2 semaines de travaux parlementaires très importants dans les jours à venir. Puis ensuite, ben vous le savez autant que moi, les présences dans le comté durant l'été sont très, très importantes. Fait que c'est là-dessus qu'on travaille. Puis je ferai connaître mes intentions le moment venu.
Ouais, vous semblez trouver que ça presse pas, mais la personne qui aura à vous succéder, si vous prenez la décision de parvenir, là, elle aura très peu de temps pour se faire connaître, non?
Oui, mais là, on est dans des suppositions, Sylvain. Puis vous savez très bien, les politiciens, on ne commande pas les suppositions. Fait qu'on pourra se reparler le moment venu.
Alors, les amis, comment vous trouvez ça? Est-ce qu'il met son parti en danger en refusant de dire s'il sera sur les rangs? Ou est-ce que ce suspense, au contraire, est une bonne stratégie?
Je dirais que... On parle de Jean-Bernard Raymond, bien sûr, parce que c'est lui qui occupe le siège actuellement, mais... C'est pas réglé au Parti québécois, c'est pas réglé au Parti libéral.
Non, mais on va y venir tantôt.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on disait tout à l'heure, personne d'entre nous est capable de dire, oui, c'est clair, c'est tel parti qui va gagner à l'automne.
Il regarde les sondages.
C'est aussi vrai.
Il attend de voir qui est candidat pour lui.
Bien sûr. Puis, et dans tous les sens, là, c'est-à-dire, je trouve que c'est tout à fait dans l'air du temps. Là. Les Québécois n'ont pas encore décidé qui est-ce qu'ils veulent avoir au gouvernement formellement. Puis les candidats sont en train de se placer, puis on pourrait aborder le fait que je suis pas certain que dans les circonscriptions autour de chez nous, il y a beaucoup plus de choix d'arrêter non plus. Là. Tu sais, par exemple, Suzanne Roy, à côté...
Elle a annoncé il y a longtemps qu'elle n'irait pas.
Exactement, mais est-ce qu'on a
un successeur,
quelqu'un qui a été identifié? Je crois pas
non
plus.
Pas que je sache.
Exactement. Donc, c'est quand même pas simplement ici, là.
Toi, Annie, comment tu trouves ça que Jean-Bernard Raymond n'annonce pas sa décision à 4 mois du scrutin?
Moi, je trouve que ça fait un peu électoraliste. Ça fait « j'attends, je regarde la remontée de Mme Fréchette et je vais voir ». C'est comme les dossiers, vous ne vous a pas parlé des dossiers si urgents dans le comté. C'est comme, j'ai l'impression que c'est l'homme qui va prendre le courant, va tenter l'eau. Puis après, il va plonger. Ça, j'aime pas ça parce que j'aurais aimé avoir un homme de conviction. Un peu comme, c'est-tu blanc ou c'est noir? C'est mon avis.
Nathalie?
Moi, j'ai l'impression qu'il attend la fin de la session parlementaire.
Ah, il dirait dans 2 semaines.
Dans 2 semaines. Ouais, pour se positionner, pour pas avoir les contre-coups bureau de comté ou dans ses dossiers qu'il doit gérer actuellement avec son équipe.
Si on jette un coup d'œil, je m'excuse, je t'interromps parce
non, mais on a
c'est
plus
juste
temps,
que je sais qu'il faut aller vite. Si on jette un coup d'œil à l'agrégateur de sondage QC125, là, le PQ dans Richelieu est probable. Il y a une meilleure cote que probable. Là, c'est solide, puis il a déjà été solide, puis il est passé à probable. Oui, mais c'est bon quand même.
Mais c'est probable.
Là, oui. Et en regard, juste parce que c'est intéressant, en regard de la souveraineté selon le même agrégateur de sondage, c'est savez-vous combien dans Richelieu?
La souveraineté qu'on est en faveur, que les citoyens...
Ça serait combien, là, c'est un référendum dans Richelieu maintenant, là, vous pensez, pour la souveraineté?
7%.
Comment? Il y aurait 7%?
7% de gens qui voteraient pour la souveraineté.
Ah non, quand même pas. Mais c'est 50-50, c'est exactement 50-50.
Ah, ouais. Oui. Ah, ouais.
Mais ce fut un comté
tout à fait,
très souverainiste. Il y a aussi du mouvement. Bon, le PQ pourrait, parlons du Parti québécois, le Parti québécois pourrait, comme en 94... voir atterrir ici un candidat. Le parachutiste se nomme Jocelyn Desjardins. Il a été candidat dans Pointe-aux-Trembles la dernière fois, puis il est tellement confiant en ses chances, ici dans Richelieu, que sa maison montréalaise est vendue. Il me l'a confié, les gens ont pu l'entendre à CJSO.
Tout à fait.
Est-ce qu'il est en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué?
Si je reprends ce que disait Annie tout à l'heure, qui parlait de conviction...
Parce que lui, il en a.
Lui, il en a. Il prend le risque. Je dirais que c'est à son actif, là, évidemment, comme de raison. Mais encore une fois, on n'a aucune idée de comment tout ça va tourner. Puis on le saura probablement pas avant la fin octobre, avant la fin septembre, là, quand le ciment va prendre dans les intentions de vote. Fait qu'on saura si les gens qui ont pris des risques ont bien fait.
Et l'autre question, puis là, je reviens à ce dont tu parlais tantôt, les investitures. Sera-t-il seul candidat en lice? Alors, Gabriel Arpin, qui avait été candidat en 2022 pour le PQ, avait fait savoir qu'il retenterait sa chance en 2026. Il était, lors de sa dernière conversation avec moi, je l'ai interrogé sur le sujet, bien, bien moins catégorique. Et, info sensible obtenue ce matin, l'exécutif du Parti québécois que présidait M. Arpin a été mis en tutelle par la permanence du parti.
Ah ouais, ça c'est un scoop, là.
Ouais. Je ne connais pas le motif, mais Gabriel Arpin me le confirme, et ça c'est venu aussi de sources extérieures très fiables. Okay. Ce parti est en tutelle. Alors,
l'arrogance PSPP.
Posons quand même la question sur l'importance de l'action militante actuellement dans les partis politiques. Tu sais, quand on dit qu'il y a entre 15 et 20 000 personnes qui pouvaient s'exprimer pour le choix du chef d'un parti qui est au gouvernement, c'est pas beaucoup, là, 15 000 à 20 000 personnes comme membership. On sait, tu sais, le Parti libéral dans le comté a aussi pas, on s'entend, n'a pas un gros membership.
Puis je sais plus le PQ, c'est rendu à quoi, là.
C'est exactement ça. Fait que, tu sais, plaçons ça dans cette perspective-là aussi, là. Il y a un enjeu de militantisme partisan actuellement.
Mais je reviens pour l'auditeur là, qui nous écoute à la radio. Sylvain, une mise en tutelle qui a été mise, c'est l'exécutif qui a décidé d'une mise en tutelle.
Non, c'est la permanence du parti, permanence nationale, qui a mis en tutelle l'exécutif local pour des motifs là, que moi je ne connais pas. Bien franchement, par ailleurs, moi, comme observateur politique désormais et journaliste, j'observe qu'on entendait depuis des années plus parler du PQ Richelieu, là. C'était mort. Alors peut-être qu'on s'est allé au national, on a dit, non, ça marche plus, cette équipe-là.
Est-ce que tu sais,
là,
Sylvain, s'il y a d'autres pas. Circonscriptions qui ont vécu des choses similaires?
Non, j'ignore. Okay. Mais ce qu'on sait, puis Annie en touchait mot tantôt, c'est qu'on voit que ça brasse au Parti québécois dans certaines circonscriptions où des candidats avaient manifesté leur intérêt, puis ont décidé qu'ils n'y allaient plus, décidé pour eux qu'ils n'y allaient plus.
Exactement, il y a eu des informations.
On met des acteurs connus, des actrices connues, comme dans Mon coin à Mauricie. Et le Parti libéral, Charles Millard, fait un peu la même chose, mais pas autant. Mais ce que j'entends, c'est que quand j'ai parlé à Philippe Laflamme, l'attaché politique du Parti libéral, il me dit on a plus de noms que de circonscriptions. On a plus de noms intéressés à devenir candidat. Mais ici, dans Richelieu, il n'y a pas encore rien de précis, ni d'investiture, ni de nom qu'on pourrait.
Il y a Jocelyn Desjardins qui sera candidat à l'investiture.
Ce sera intéressant en septembre quand on se retrouvera. Peut-être que Sylvain, tu vas nous inviter pour revenir.
J'y reviens. Là, il reste deux minutes. Puis là, il y a les autres partis. Candidate du Parti libéral, Nathalie Rochefort, tu vas avoir de bonnes antennes. Est-ce qu'elles t'ont transmis des noms?
Il n'y a rien à date. Dans Nicolas Yamaska, l'investiture a eu lieu en mars dernier, déjà. Ouais. Mais ici, il y a des noms qui ont circulé, mais il n'y a personne qui a confirmé.
La dernière fois, c'était un candidat de l'extérieur, comme ça risque d'être un candidat de l'extérieur cette fois-ci pour le Parti québécois. Je ne me souviens même pas du nom de la personne. On l'a tous oublié. Là, un jeune homme, là.
Je ne sais pas. Bon. Oui, je me souviens. Je me souviens de la situation.
Oui, pas du nom. Parti conservateur. Parti conservateur. Est-ce qu'on entend quelque chose ici dans Richelieu?
On n'a pas eu comme réponse. Mais on l'a texté. Pas faute de texter.
On a texté le chef, Éric Duhem. On n'a pas de nom à nous mettre sous la dent.
Il a suggéré Annie.
Ni le Parti libéral. On n'a pas de nom. Donc, on a encore... Encore un beau suspense. Puis on attend toujours la décision de M. Aymon.
Et du côté de Québec solidaire, mes antennes à moi m'ont dit que ni Sophie Pagé-Sabourin ni David Dionne n'allaient briguer les suffrages. Ce sont les deux derniers candidats dernières élections dans
Mais je trouve tellement que c'est dans l'air du temps, Sylvain, j'en reviens pas. T'sais, vraiment, il y a tellement d'inconnus d'ici le 5 octobre que ça se répercute chez nous également.
Et normalement, il reste une minute, normalement, l'été, là, l'été qui s'en vient, c'est celui que les candidates et candidats auraient avantage à employer pour faire le tour des festivals.
Est-ce qu'on aura, Sylvain, une élection présidentielle, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont les candidats au poste de premier ministre qui feront la campagne en septembre? Il y a quand même une tendance vers ça depuis quelques élections. Hein. Les gens votent
en fonction du chef, ouais.
Mais ne pas oublier le 1 ou 2 % de plus que peut amener le candidat local.
Complètement.
Les amis, c'était des bangs trop vite. Je dois déjà vous remercier, Annie Bourque, Nathalie Rochefort, Denis Marion. Est-ce que je puis faire le vœu que nous nous revoyons le 5 octobre en soirée électorale?
Bien sûr.
Ah ben oui.
On peut toujours tout souhaiter dans la vie.
Puis là, on va voir les prédictions de M. Marion. Là, il était audacieux là, aujourd'hui. Là.
Oui, mais ce que j'ai dit, c'est que tout étant égal par ailleurs. Hein, on s'entend bouger en 24 heures.
Mais moi, je promets quand même, tu sais, j'ai parlé d'un gouvernement péquiste minoritaire, mais moi, je pense qu'il faut surveiller Charles Millard. Il y a un bel engouement. Il y a un militantisme, en tout cas, ce qu'on voit dans les autres comtés. Je pense
il y a un militantisme jeune aussi.
Jeune aussi. Puis
mais
moi,
ça n'a pas encore stimulé la candidature ici.
C'est intéressant de constater qu'à la veille de l'été, il manque des candidats dans tous les partis.
Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup. La semaine prochaine, première sortie estivale de la Tribune en tournée. On va être à Saint-Aimé à la semaine prochaine.